A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Salut à toutes et tous, c'est Sina. Ça me fait plaisir qu'on se retrouve déjà pour une nouvelle série de l'affaire. Surtout que ce dossier va bientôt être jugé devant une cour d'assises, en juin 2023. Cette série part donc de ce genre de surnom médiatique qu'on peut donner dans les journaux, comme le boucher des Ardennes ou le grêlé, et là on l'appelle le tueur de DRH. Je sais pas qui a trouvé ce surnom d'ailleurs, mais vous avez compris que dans ce podcast, quand on parle de crime, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse derrière. Quelque chose de plus structurel, de plus systémique. Là, pour cette nouvelle série, c'est notre relation au travail. Quelle place on lui donne? Comment une crise économique ou des crises professionnelles peuvent impacter nos vies? Comment un homme de 45 ans en 3 jours peut surtout traverser la moitié de la France pour s'attaquer à ceux qui l'ont licencié 15 ans auparavant, au beau milieu d'une crise financière? Est-ce que cette crise a pu nourrir cette vengeance? Est-ce qu'on peut parler d'un serial killer en crise ou alors d'un serial killer de crise? Est-ce qu'on peut parler tout simplement de serial killer dans ce cas? À ce jour, l'accusé n'a pas encore été jugé. Il est donc toujours présumé innocent. Et face à toutes ces questions, il a choisi pour le moment de se taire depuis plus de 2 ans. Pas un mot. Mais la journaliste judiciaire Marion Dubreuil a eu accès à ses notes. Et elle a décidé de fouiller son passé pour comprendre. Tueur de DRH est une série du podcast L'Affaire en 6 épisodes. Écrite par Marion Dubreuil et réalisée par Adrien Leblon pour Paradiso Média. Bonne écoute.
Mardi soir, le corps sans vie d'Estelle Luce, DRH de 39 ans, est retrouvé sur le parking de son entreprise dans le Haut-Rhin et l'agression d'un autre directeur des ressources humaines est commise à son domicile. D'après les enquêteurs, pendant sa carrière professionnelle...
Quand cette enquête commence en Alsace, le 26 janvier 2021, les policiers n'ont en fait pas grand-chose pour comprendre ce qui vient de se jouer. À ce moment-là, on ne parle pas de tueur de DRH. Les enquêteurs ont juste 2 scènes de crime. Une femme morte par balle sur un parking et un homme qui a été ciblé devant chez lui. Le tout à quelques kilomètres de distance et en moins d'une heure. Rien pour identifier le tueur.
Tentative d'assassinat sur un ancien DRH. Tentative d'assassinat commise le soir même du décès d'Estelle Luce.
Alors dans ces cas-là, quand l'enquête n'avance pas sur le suspect, on se concentre sur les victimes et leurs points communs.
Elle était directrice des ressources humaines.
Ici, c'est leur profession. Ils sont tous les deux DRH. Et en plus, ils ont travaillé ensemble, dans plusieurs entreprises. Mais ça remonte à quelques années. Les policiers se disent qu'ils tiennent une piste. Mais c'est pas sûr.
Si une similitude d'armes utilisée est mise à jour avec les faits commis dans la Drôme, il n'est pas, à ce stade, établi qu'il s'agisse de la même arme. Un témoin atteste avoir...
C'est la deuxième vague de meurtres, 2 jours plus tard. Le 28 janvier 2021, qui confirme que ça a bien un rapport avec le monde professionnel. Cette fois-ci, on est très loin de l'Alsace, à 600 km de là, près de Valence. Le tueur percute une voiture de police qui lui barre la route, quelques minutes seulement après l'assassinat d'une conseillère Pôle emploi et d'une autre directrice des ressources humaines. Le point final d'un périple meurtrier de 3 jours, et de ce que dans les médias, on va rapidement appeler l'affaire du tueur de DRH.
Il n'a pas garanti la sécurité de la conseillère Marion Dubreuil.
Quand Gabriel Fortin entre dans l'agence Pôle emploi de Valence ce jour-là, il a une arme à la main, à peine dissimulée sous un sac...
En 2021, je suis déjà journaliste judiciaire depuis 5 ans à la radio. Ce qui me frappe, dès le départ, dans l'affaire du tueur de DRH, c'est 2 choses. D'abord, un fait divers dans le monde du travail, c'est plutôt rare. Encore plus avec autant de scènes de crime. 3 DRH et une conseillère Pôle emploi ciblée, le tout à 600 km de distance, avec un suspect qui a été arrêté mais qui garde le silence. Je me demande tout de suite, c'est quoi l'histoire derrière cette affaire? Et puis derrière ce visage? Au départ, il n'y a que sa photo d'identité qui circule. Le teint mat, le crâne rasé, un regard et un sourire de photomaton, mais rien de plus. Je suis Marion Dubreuil et vous écoutez le premier épisode de Tueur de DRH.
Les enquêteurs privilégient ce soir la piste de la vengeance.
La préméditation de celui qu'on surnomme le tueur de DRH.
La justice m'a laissé seul avec une meute de loups.
Leur point commun, une activité dans le monde du travail. Ressources humaines ou aide aux chômeurs.
Ils me prennent pour des cons.
Pour le coup, il a bien pensé les choses.
Perte de chance.
C'était clairement un tir pour tuer.
Carrière détruite.
Une expertise balistique est en cours pour confirmer ou non le lien avec les faits commis en Alsace par celui qu'on surnomme aujourd'hui le tueur de DRH.
Épisode 1. La vengeance.
Quand le tueur de DRH est arrêté, le compteur de sa voiture de location indique 12 437 km. Sur le sol de cette Hyundai rouge, les policiers ont retrouvé un pistolet semi-automatique et 6 chargeurs. Un sac à dos avec une paire de gants en caoutchouc noir et 2 casquettes. Et puis, ce blouson noir jeté sur le siège arrière. Le problème, c'est que dès le départ, le tueur de DRH refuse de répondre aux questions des enquêteurs. Les seuls mots qu'il adresse aux policiers sont pour nier les faits.
Je veux pas répondre aux questions concernant les affaires qu'on veut me mettre sur le dos.
Depuis 2 ans, ses avocats font pareil. Pas un mot dans les médias. Et j'ai pas échappé à la règle. Ils m'ont juste répondu « aucun commentaire ». En revanche, si le tueur parle pas, il écrit. Il écrit beaucoup. Des notes qu'il a archivées méticuleusement sur son ordinateur ou dans le carnet à petits carreaux d'une centaine de pages qu'il a tenu en prison. C'est sa façon de parler. Des notes manuscrites au stylo, d'une écriture serrée, avec de nombreuses abréviations, qui laissent peu de place au blanc sur la page. C'est ce qui me saute aux yeux. Dans ce carnet, il note presque chacun de ses faits et gestes, et il mélange tout. Son emploi du temps, ses repas derrière les barreaux, les échanges avec son avocat et les comptes rendus de ses interrogatoires devant la juge. Ce carnet, c'est le miroir du tueur de DRH. Et dans ce miroir, il parle de lui à la troisième personne, en reprenant ses initiales, G.F.
Le meurtrier présumé a été interpellé sur ce pont qu'il empruntait à contresens en direction de Valence. Il a percuté une voiture de...
G.F. pour Gabriel Fortin. Mais au moment où il est arrêté en janvier 2021, les enquêteurs ont rien de tout ça. Gabriel Fortin n'a pas d'antécédent judiciaire. Le pistolet qu'il a utilisé est réglementaire. Il pratique le tir et il a une autorisation de port d'armes. On en revient toujours aux professions des victimes. Des DRH et une conseillère Pôle emploi. Qu'est-ce qui est arrivé à Gabriel Fortin pour que le travail cristallise une telle rancœur dans sa vie? On a tous croisé un collègue en difficulté, ou qui plaisait pas au chef, qui a pu faire les frais de décision d'une direction. Mais je connais personne qui en est arrivé là. Alors comme les policiers, je vais fouiller son CV pour chercher les réponses qu'il refuse de donner.
J'ai travaillé, mais je peux pas vous en parler. J'ai arrêté de travailler il y a 5 ou 10 ans, je peux pas vous dire quel métier je faisais. Je veux pas vous répondre sur le sujet.
La première ligne du CV de Gabriel Fortin, c'est son diplôme d'ingénieur, obtenu en 1999. Le site internet de l'École nationale d'ingénieurs de Metz vante une formation qui s'adapte aux besoins des entreprises et à un monde en perpétuelle évolution. L'école n'envisage pas à l'époque la crise économique mondiale qui va frapper au début des années 2000.
Viré en une journée, le 15 septembre, les employés de Lehman Brothers font leur carton. La bulle financière éclate. L'une des institutions financières les plus renommées de Wall Street fait faillite. Le marché en a décidé ainsi.
Il n'y a pas d'archives des années 90 sur le site de l'école. Pas de trombie, pas de photos de promo. Mais j'ai retrouvé l'un des camarades de Gabriel Fortin.
C'est mon père qui me l'a annoncé. De l'incompréhension, de la tristesse, C'est vrai que j'avais perdu contact avec lui, mais c'est difficile de comprendre. Moi, dans ma tête, je me dis comment on peut en arriver là, quoi. C'est triste, quoi, mais...
Il s'appelle Jacques. Il a pris du temps pour accepter de parler de celui qu'il est encore l'un des seuls à appeler Gabriel. Il décrit celui qu'il a connu, pas le tueur de DRH. Il me parle d'un garçon de taille moyenne, métis, un peu rond.
Je pense qu'on était tous les deux plutôt dans la moyenne, donc on n'était pas brillants plus que ça. Mais c'était quelqu'un qui travaillait sans difficulté. Enfin, c'est-à-dire pour se mettre au travail et fournir un effort, il n'y avait pas de problème, quoi.
Avec Jacques, on a d'abord échangé par téléphone. Et puis on s'est donné rendez-vous dans un café, dans le 17e à Paris, à 8h du matin, avant le travail.
Donc oui, on est à l'école et à un moment donné, on est dans un grand amphithéâtre et c'est la constitution des binômes, ça se fait en début d'année. Donc il y a des personnes qui se connaissent déjà et qui se mettent en binôme. Nous, on se connaissait pas, mais on s'est mis en binôme. On doit avoir 20 ans. C'était centré sur les études et oui, on n'a pas fait beaucoup d'autres choses en dehors, quoi. Il avait l'air plutôt solitaire en dehors de l'école, donc... Je crois pas que ça m'est arrivé qu'il me présente quelqu'un en dehors de l'école. Donc, je pense qu'il avait des activités extrascolaires, donc notamment le planeur ou d'autres.
À la sortie de l'école, les copains se perdent un peu de vue. Gabriel Fortin fait son service militaire, affecté à des bases aériennes de la région. Il décroche son premier job en Allemagne, chez un équipementier automobile en 2001. Mais 2 ans plus tard, l'entreprise ferme et Gabriel Fortin, un peu désabusé, doit rentrer vivre chez sa mère, à Nancy, dans son petit logement social. Il se retrouve en tête à tête. Son grand frère a définitivement pris son envol et son père n'a jamais été là. Le 10 octobre 2005, 6 ans après son diplôme, le trentenaire célibataire signe enfin son premier CDI chez Francel. C'est l'entreprise dans laquelle il rencontre ses 2 premières victimes, à Galardon, en Eure-et-Loire.
Oui, c'est moi qui l'ai, enfin avec mon directeur, on l'a embauché, oui. Après, il était sous ma responsabilité directe.
François est aujourd'hui retraité. Mais à l'époque, il est responsable du bureau d'études chez Francel, une société spécialisée dans les régulateurs de gaz naturel qui emploie 127 salariés, une société rachetée récemment par un groupe américain.
J'avais 7 ou 8 personnes sous moi et on était à une période où on devait sortir un nouveau produit et il y avait pas mal de soucis dessus et on cherchait à embaucher une personne pour finaliser un petit peu ce produit. Et c'était une période où on avait du mal à recruter, quoi.
Gabriel Fortin est embauché à 2 500 € mensuels pour contribuer au projet phare de l'entreprise, le B6NG, un nouveau régulateur de pression de gaz naturel.
C'est un appareil qui, outre le fait de baisser la pression, a pas mal de petites sécurités, puisqu'on est affaire à du gaz naturel, donc quelque chose d'assez dangereux. Sinon, on l'a reçu avec mon responsable. Là, j'avoue que j'ai assez peu de souvenirs de l'entretien. Il ne paraissait pas être le top de ce qu'on recherchait. Quoi. Si vous voulez le souvenir que j'en ai, c'est ça, dès le départ. Mais il n'y avait pas beaucoup de candidatures. Faut dire qu'on était en pleine campagne. Galardon, c'était à mi-chemin entre Rambouillet et Chartres. Donc, c'est trop loin pour des Parisiens ou des gens de la banlieue. Et c'est encore assez loin de Chartres. Donc, vraiment des difficultés de recrutement. C'était quelqu'un de très introverti. On avait du mal à lui sortir des paroles.
À l'époque, Gabriel Fortin tient déjà une sorte de carnet de bord. Il estime qu'il est la seule personne 100% dédiée au projet et il semble regretter ne pas être associé à certaines réunions qui se déroulent en petit comité.
Ben, c'était pas facile parce que ben, il avait une intégration qui était pas évidente. Quoi. Il restait dans son coin. Visiblement, on ne parlait pas beaucoup. Le fait le plus marquant qui est arrivé avec lui, une fois, on avait vraiment une épée de Damoclès avec ce produit qui marchait mal. On a fait une séance de brainstorming. Lui, il n'avait pas de vacances. Donc, on lui a fixé un certain délai pour qu'il nous sorte quelques croquis, quoi. Enfin, des choses qui tiennent la route et que l'on puisse tester. Et quand est arrivé le délai, on s'est à nouveau réunis. On y a demandé de sortir ses idées. Enfin, ses croquis et tout ça. Et alors là, ça a été un bilan, mais alors c'était catastrophique, quoi. Il y avait quelques petits dessins, mais des trucs qui tenaient pas du tout la route, enfin, qui étaient infabricables, qui étaient même en prototype. À partir de ce moment-là, on s'est dit, mais attends, c'est OK, on est tombé.
Dans son carnet, justement, Gabriel Fortin estime que ce projet est un fiasco. C'est aussi courant juin 2006 qu'il reprend contact avec son copain d'école, Jacques. Il lui envoie plusieurs mails et Jacques répond quand il peut.
16-06-2006, 8h34. Salut Jacques. Zech, comment est-ce? Sinon, côté boulot, comment s'est déroulé ton entretien? Ça dit qu'on se fasse une bouffe un jour? À plus. Gabriel. 13 juillet 2006, 13h41. J'ai reçu une réponse automatique, absence de bureau. As-tu passé de bonnes vacances? Où es-tu allé? C'était bien? Raconte. J'ai une petite remarque à te formuler. Le prends pas mal. Pourquoi dans ton message « absence de bureau », tu indiques la date de fin de mission? Quand je la lis, j'ai l'impression que c'est aussi un message d'adieu. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, sache que je suis là.
Au même moment, Gabriel Fortin est loin de faire l'unanimité dans son équipe.
On ne pouvait pas lui demander de la créativité, de l'originalité. Puis même, il y a des gens qui ne sont pas très créatifs, mais bon, ils savent dessiner et tout ça. Ils savent essayer d'élaborer des choses, même si ce n'est pas la route. On est là pour les améliorer, leur redonner une forme ou quelque chose qui fasse que ça en devient quelque chose qui fonctionne. Et là, il n'y avait rien. Généralement, quand on se regroupait pour faire le point, j'avais mes supérieurs avec moi. Et donc, j'étais pas le seul à juger la technicité qui était en face de nous.
En 2006, ils sont 5 à gérer le dossier Fortin. Parmi eux, Bertrand Méchel et Estelle Luce, le DRH et sa stagiaire. 15 ans plus tard, ce sont les deux premières victimes de Gabriel Fortin. Le 26 janvier 2021, c'est sur le parking de la société de matériaux de construction Knauf, à Wolfgangsen, dans le Haut-Rhin, que Gabriel Fortin va s'attaquer à Estelle Luce. Cette mère de famille de 39 ans est abattue de 4 balles au volant de sa voiture alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle. 3 quarts d'heure plus tard, ce même mardi 26 janvier, Gabriel Fortin se présente au domicile de Bertrand Méchel, à Wattwiller, en Alsace. Il dissimule son arme à feu sous un carton à pizza et s'assure qu'il a bien en face de lui Monsieur Méchel. Le DRH acquiesce, un coup de feu part et le tueur manque sa cible. Après un corps à corps, Gabriel Fortin prend la fuite. Bertrand Méchel a essuyé une tentative d'assassinat. Il n'a pas reconnu le salarié qu'il a licencié 15 ans plus tôt, mais il a survécu. Gabriel Fortin est licencié pour faute grave en 2006, moins d'un an après son embauche. La procédure de licenciement est entamée alors qu'il est en vacances d'été.
Dans toute ma carrière, c'est bien la première fois que ça arrive, quoi. D'ailleurs, je pense pas que... Il n'y a jamais eu d'autres licenciements dans ma carrière. Licenciement pour incompétence.
Le 26 juillet 2006, 15 ans avant son périple meurtrier, Gabriel Fortin passe un entretien d'évaluation annuel, juste avant de partir en congé pour 3 semaines. Son N+1 note dans son rapport des problèmes relationnels. Il évoque notamment une attitude désinvolte, des problèmes de performance, un potentiel limité qu'il doit encore faire ses preuves. 5 jours plus tard, Estelle Luce, sa première victime, finit tout juste son stage d'études à 24 ans. Elle est chargée de remettre à Gabriel Fortin sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. L'entretien a lieu dès 9h30, le 16 août. Gabriel Fortin rentre tout juste de vacances. Le délégué du personnel, qui aurait pu l'accompagner, est toujours en congé. L'entretien dure 2h30. L'ingénieur est seul face à Bertrand Méchel. Estelle Luce, la stagiaire, est là en observation. Le licenciement pour faute est prononcé le 23 août 2006. Pourquoi Francel Emerson souhaite subitement se séparer du jeune ingénieur? Je trouve des éléments de réponse dans le courrier signé par Bertrand Méchel.
Le vendredi 28 juillet, vous êtes parti en congé sans prévenir l'équipe. Vous avez conçu un robinet sans anticiper les contraintes de fabrication des pièces achetées. Au final, la perte de temps est de 3 semaines. Vous ne prenez pas en compte les priorités définies en réunion. Vous ne manifestez aucun intérêt aux travaux réalisés par vos collègues.
Certaines expressions sont particulièrement dures, et la liste est longue. Inefficacité, incompétence, insuffisance professionnelle, comportement irrespectueux, arrogance, insubordination, mauvaise foi, mauvaise volonté, problème de communication. En fait, ce que l'entreprise reproche surtout à Gabriel Fortin, c'est d'avoir envoyé son évaluation annuelle par mail à la quasi-totalité de sa hiérarchie. À partir de là, le PDG a décidé de s'en séparer. Dans son rapport de stage, Estelle Luce, la première victime, évoque une erreur de casting révélée bien trop tard.
Le licenciement de cette personne est inévitable. Son comportement est intolérable, du fait surtout qu'il a un rôle central dans le projet B6NG, qui est le projet phare de l'entreprise. Projet d'une grande importance stratégique.
Le licenciement lui semble inévitable, mais tout n'a pas été fait dans les règles. La stagiaire en ressources humaines souligne que le salarié n'a reçu aucun avertissement jusque-là, que son dossier est vide, aucune mise à pied préalable, comme s'il y avait une urgence à se débarrasser de Gabriel Fortin.
Tueur de DRH est une série originale du podcast L'Affaire en 6 épisodes, écrite par Marion Dubreuil et réalisée par Adrien Leblon pour Paradiso Média.